Bonjour à tous, au micro de Vent d'Orage aujourd'hui, Jean-Philippe Daguerre pour un magnifique spectacle donné actuellement au Théâtre Rive Gauche, Adieu Monsieur Hoffmann, un spectacle qui a déjà été donné la saison précédente et a obtenu une pluie de Molière. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Alors c'est un spectacle pour moi que je considère comme une sacrée gageure puisqu'il fait se télescoper deux sujets à la fois d'actualité et très difficiles. Le premier, le fait qu'un couple désireux d'avoir un enfant ne puisse pas y parvenir, puisque le père, en l'occurrence, le mari, est stérile. Et puis, cette difficulté aussi à tomber dans une compromission de commercer avec l'ennemi pendant la période de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous est venue justement cette idée de faire s'entrechoquer ces deux sujets?
Alors, j'avais récupéré il y a longtemps des émissions antisémites de la radio, de Radio Paris, qui étaient divulguées comme ça pendant toutes les années 40, au peuple parisien et français d'ailleurs. Et j'étais assez halluciné de cette facilité à être antisémite dans des voix françaises. Je savais très bien que l'antisémitisme existait partout, mais ces émissions sont tellement terrifiantes. Ces Français qu'on entend interviewer parle de façon aussi naturelle de la différence qu'il y a entre les juifs et les autres, et que je m'étais dit c'est quand même incroyable, ça serait un sujet intéressant de faire entendre un jour à mes compatriotes ces émissions qui sont quand même hallucinantes,
effrayantes,
et on me demande souvent d'ailleurs si c'est moi qui les ai écrites. Beaucoup de spectateurs se demandent si ce sont de vraies émissions. Donc ces émissions, je les avais depuis longtemps dans ma tête, je me suis dit il faudrait les faire entendre dans un sujet qui se passerait pendant l'occupation. Et au-delà de ça, dans ma vie personnelle, j'ai des amis très proches qui ont eu beaucoup de problèmes pour avoir des enfants, des problèmes de stérilité. J'ai vu à quel point ça avait été une gageure pour eux de vivre encore ensemble, le prix cette espèce de prix d'un enfant. Je trouve que c'est un sujet extrêmement moderne aujourd'hui. Et du coup, j'ai mélangé ce sujet très moderne qui me touchait de près en voyant les traitements que faisaient mes amis, les voyages, l'argent que ça leur a coûté, etc. Voilà, j'ai décidé de mélanger ce sujet de l'étoile jaune pendant l'occupation avec un employé d'un juif qui n'est pas juif mais qui est stérile. Donc l'employé demande à son patron de faire un enfant et le patron lui demande de sauver sa boutique, de le cacher à cause de l'étoile jaune et de le cacher dans les murs et de prendre ce risque-là. Voilà. Donc il y a un marché conclu entre deux hommes.
Alors tout gravite effectivement autour de ce que je considère un peu comme le personnage central, à savoir celui du mari qui désespère de devenir père. Vous l'avez enfermé dans un véritable étau. L'écriture s'est construite autour de ce personnage.
Oui, mais ce personnage, il est un petit peu... C'est le personnage de quelqu'un qui est quelqu'un de bien, qui veut être absolument quelqu'un de bien, qui au départ est quelqu'un qui n'a pas de notoriété aussi, c'est-à-dire c'est un employé qui n'a pas... C'est aussi une ascension sociale, puisque ça traite beaucoup de ça aussi. C'est comme un gars qui en confie la boutique et surtout qui crée un bijou qui d'un coup lui donne une dimension sociale, qui lui fait fréquenter des personnalités importantes. Malheureusement, ces personnalités importantes à l'époque, ce sont souvent des personnalités qui appartiennent au régime ou de Vichy ou au régime nazi. Donc du coup, surtout avec cette contrainte d'héberger un juif en cachette, de devenir quelqu'un d'important, respecté, riche, et en même temps qu'il y a sa femme qui n'arrive pas à être fertilisée par son employé, par son patron qui est caché dans la cave. Donc oui, j'ai tout axé autour de lui. En étudiant, moi je me suis mis à sa place et en me disant voilà, qu'est-ce que si moi j'ai dans cette... Quand on écrit, on se met toujours à la place de ces personnages. Donc, comment est-ce que je réagirais? Donc, j'ai essayé de m'étudier à travers ce personnage, mon comportement. Et surtout, on a des côtés très obscurs en chacun d'entre nous. Et il ne faut pas avoir peur d'aller fouiller vers des endroits un peu sombres qu'on peut avoir chez soi-même et se mettre un petit peu dans un endroit, dans un paysage intellectuel et historique où c'est assez intéressant de se dire, tiens, je suis en 42, je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je fais?
Alors, vous évoquiez en début de cette interview les choses absolument terrifiantes qu'on entend par moments dans la pièce. Et il faut préciser que ce ne sont pas uniquement des choses issues de la propagande, mais aussi des choses qui sont de l'ordre de la conversation de tous les jours. Ce qui peut quand même nous ramener à une actualité brûlante sur la montée un peu partout dans le monde de diverses formes d'extrémisme. Et la pièce montre avec beaucoup d'intelligence, je trouve, comment justement le verre pénètre dans le fruit, comment le doute s'instaure dans un personnage que je qualifierais au départ de plutôt sain et qui va petit à petit voir son mode de pensée évoluer.
Oui, c'est exactement ça. Comment un type bien, avec, selon les circonstances sociales et émotionnelles qu'il a dans sa vie, tout d'un coup, avec cette propagande qui s'insinue, qui l'arrange aussi à un endroit, parce qu'il se met à détester quelqu'un, et c'est facile de détester quelqu'un quand on est, on va dire, accompagné par cette propagande de la radio à l'époque, mais c'est évident que le parallèle n'est pas loin. C'est vrai que je ne suis pas là pour faire une forme de condamnation des médias, etc. Mais nous sommes quand même une société où on a un vrai problème de xénophobie, de racisme. On revient à des discours, à des comportements qui font vraiment penser à ce que nous avons vécu en ayant dit plus jamais ça. On n'a dit plus jamais ça et on retombe exactement dans les mêmes travers, qu'on le veuille ou non. Donc moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis simplement pour là de me dire, et surtout d'affronter le mal dans les yeux, parce que le mal, je pense qu'il est dans chacun d'entre nous. Et la façon dont réagit Pierre Vigneault quand il va vers le mal, je pense que moi-même, je suis tout à fait capable, moi, en tant que Jean-Philippe Daguerre, de le faire dans ma propre vie. Et j'ai même été tenté par rapport à des succès. C'est un mec qui commence à avoir du succès. Moi, je commence à avoir du succès dans le théâtre. Ce sont des tentations particulières. On fréquente d'autres personnes. On peut s'arranger facilement de concessions, de ne penser qu'à ce qui nous arrange, etc. C'est aussi une alerte que je me mets face à moi-même, en tant qu'être humain, de dire attention, l'essentiel, la valeur, l'amour, l'humanité, la fraternité, ce sont des choses qui me touchent. Mais je me rends compte à quel point parfois, selon les circonstances de déception, de jalousie, on peut très vite s'arranger avec des discours qui tout d'un coup nous font partir de la zone dans laquelle on avait envie d'être, une zone de quelqu'un de bien, de vouloir être quelqu'un de bien. Donc moi, j'essaie toujours de mélanger mes travers, de les mettre sur scène. C'est une façon aussi de m'auto-analyser, je pense, et de me dire, attention, on n'est jamais loin de ça. Et du coup, les nazis qui viennent dans ce spectacle, ben, c'est des nazis qui nous ressemblent aussi. Ce n'est pas des nazis qu'on arrive avec un costume vert, qui commencent à parler comme ça. Ah, il y a des idées reçues. Ce sont des gens qui nous ressemblent, qui auraient pu aussi basculer du bon côté, qui ont finalement choisi un autre côté. Si on nous montre sans arrêt l'ennemi, entre guillemets, comme quelque chose de très très loin de nous, je pense qu'on a tort. L'ennemi, il est chez nous. Et je pense qu'il faut le combattre d'abord chez soi, avant de vouloir donner des leçons à tout le monde.
Alors effectivement, c'est un spectacle qui évoque aussi les fragilités psychologiques, sociales, familiales qui font justement que, comme nous le disions tout à l'heure, le verre pénètre peu à peu le fruit. C'est une pièce qui oppose aussi à plusieurs moments, c'est évoqué, c'est même dit clairement, peur et courage.
Oui, parce que c'est toujours un mélange entre les deux. Je vais dire au personnage souvent, le courage est plus fort que la peur, c'est qu'il faut toujours essayer un moment par les actes de prendre des risques, sinon on fait, c'est une valeur existentielle, c'est de faire de sa vie quelque chose et de pas se contenter de subir, et que souvent c'est sur cette peur qu'on combat, et qu'il faut absolument, voilà, c'est ce dilemme, c'est facile de s'abriter toujours vers la peur, de toute façon c'est très humain. Donc évidemment c'est une des thématiques de la pièce qui revient pour leitmotiv, parce qu'il faut penser qu'on peut changer le monde. Ce que je veux dire, c'est que parfois si le monde a changé, c'est souvent parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'on pouvait le changer au moment où on leur a dit que tu ne le changeras pas. Donc je pense qu'il faut toujours avoir l'idée que chacun, on est des éléments dans une société, et que chacun a cette force de pouvoir changer le monde, s'il a envie de le faire.
Très bien, alors on ne va pas en dire plus sur le contenu de la pièce, on a déjà pas mal dévoilé le pitch, mais il ne faut pas aller plus loin parce qu'il y a quand même une véritable intrigue qui se noue. J'aimerais qu'on en vienne un petit peu à la direction d'acteur. Moi, je vous ai appelé hier donc, pour vous proposer cette interview, avec dans l'idée qu'il y a quand même deux phases assez clairement distinctes. Une phase plutôt que j'avais qualifiée de mécanique et très didactique pour planter le décor. Et puis après, on rentre à proprement parler dans l'interrelationnel, et puis l'histoire va prendre toute son épaisseur.
Oui, je voulais très vite poser le pitch, entre guillemets, que très rapidement le spectateur, on lui pose les éléments et de façon un peu radicale. Donc du coup, mes personnages amènent des éléments en information rapidement au spectateur, de façon assez formelle, pour une fois qu'on a planté un décor, on se met à vivre à l'intérieur de ce décor. Donc c'était un choix esthétique. C'est un choix aussi d'un théâtre que moi je défends toujours, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on... Je ne fais pas un théâtre où on parle comme dans la vie. Ce n'est pas naturel. Je ne laisse pas des temps entre des répliques où dans la vie on laisserait des temps. On est au théâtre et j'ai besoin d'imposer quelque chose un peu rythmique où il n'y a pas de petites choses, des trucs, c'est assez direct. Et je ne laisse des temps de silence que parce que c'est pour mettre en valeur un silence. Donc du coup, c'est un côté un petit peu formel, et au fur et à mesure, le spectateur s'y habitue et a l'impression qu'il écoute une pièce de façon naturelle. Mais l'acteur ne joue jamais de façon naturelle. Il a toujours cette contrainte technique jusqu'au bout. Mais comme les dialogues se mélangent, la situation prend. Ce théâtre, selon moi, s'impose à l'oreille du spectateur qui, au début, est un petit peu surpris, je pense. Et du coup, on pense que les acteurs jouent différemment, mais ils ne jouent pas tant différemment que ça. C'est une forme de pari sur un style imposé rythmique qui, tout d'un coup, ça, c'est comme un langage qu'on donne au spectateur. Et au fur et à mesure de l'histoire, il se laisse complètement faire par ce langage-là. C'est mon style de théâtre. J'ai, dans toutes mes pièces que je monte, classiques ou contemporaines, je ne laisse jamais de place au naturel pur. J'ai besoin d'une contrainte rythmique, sonore, de ne pas prendre un temps, je t'ai entendu, je vais te répondre. On est au théâtre, les temps de la vie ne sont pas les temps du théâtre. Donc pour moi, j'essaie de créer une espèce de quelque chose assez impulsif, rythmique, dans lequel l'acteur n'a pas le temps de réfléchir. Il doit être simplement dans une parole, une écoute de l'autre, un son ensemble qu'on donne, du son et du sens. C'est pour ça que ça amène un truc un peu particulier, mais qui au fur et à mesure, au bout de quelques minutes, les gens ne s'en rendent plus compte.
C'est vrai, on s'y habitue très facilement au bout de quelques minutes. Alors, parlez-nous un petit peu de la scénographie et de la mise en espace, qui ont vraiment leur importance dans la construction même du spectacle.
Ben là, la scénographie a été réalisée par Caroline Mex, qui a fait un très beau travail en adéquation avec ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'extrêmement simple, clair. Comme toujours au théâtre, c'est vrai que moi, je m'embarrasse rarement de décors complexes. Je mets toujours un peu l'acteur au centre de mon théâtre. Je veux que tous les éléments qui soient donnés soient vraiment indispensables. J'ai du mal à ne pas aimer mettre trop de chantilly autour du gâteau. Hein. J'ai envie qu'on aille directement dans l'essence de la pièce, les acteurs qui racontent au spectateur une histoire. Donc moi, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose très... On est dans la cave, on est dans la cuisine, on est dans dans le dancing où il y a les claquettes, où l'acteur principal fait des claquettes. Il faut que très vite on passe d'un lieu à l'autre de façon extrêmement rapide, et que tout de suite le spectateur se projette dans un lieu avec quelques éléments de façon extrêmement instantanée et rapide.
Sans avoir à se poser de questions, parce que c'est très instantané, justement, les petits détails de lumière, de décor, plantent justement le décor du lieu où tel ou tel personnage se trouve.
Je voulais faire un spectacle noir et blanc. Je trouve ça assez élégant, le noir et blanc. Donc tous mes personnages, toutes les lumières sont sur du noir et blanc. Tous les costumes sont dans les gris, noir ou blanc. Il n'y a qu'un moment où il y a un point de couleur que je ne dévoilerai pas. Mais tout le spectacle est en noir et blanc. Je trouve ça assez élégant. Ça nous ramène dans l'époque aussi. Je me suis amusé avec ces codes-là aussi. Je trouvais ça... Ça m'a plu de partir dans cet univers du noir et blanc.
Alors, une question un peu à la marge, parce que je sais que vous ne... Bien évidemment, vous ne faites pas du théâtre pour obtenir des récompenses. Ceci étant, c'est avec grand plaisir que j'ai pu voir, moi, cette magnifique représentation il y a quelques jours, parce que je l'avais ratée la saison dernière. Au-delà du fait d'avoir été récompensé, c'est une satisfaction pour soi, mais c'est sans doute une satisfaction surtout pour les équipiers d'une telle aventure. Est-ce que les réactions, la réception du public a changé après les Molières ?
Je pense que ce qui change après les Molières, c'est que tout d'un coup, votre spectacle va jouer plus longtemps. C'est sûr qu'on fait plus de ventes en tournée, les salles sont pleines de façon beaucoup plus rapide. C'est évident qu'il y a plus de monde qui vient. Après, le comportement des spectateurs, on a eu la chance dans ce spectacle d'avoir toujours des spectateurs émus, qui rient, qui pleurent dans le spectacle. Enfin,
on rit beaucoup.
Hein, oui, on rit aussi, parce que je pensais que c'est important de savoir un sujet un petit peu tragique avec de la comédie. Ce côté loufoque, en fait, qui existe dans la pièce. Et je ne dirais pas que les spectateurs ont changé. Les spectateurs sortent de la même manière qu'ils sont sortis avant les Molières. Le spectacle, on a eu surtout conscience d'une certaine pression, qui fait que quand vous avez des Molières, 4 Molières sur un spectacle, vous dites qu'on ne peut pas se permettre d'être moyen. Donc, mais je pense que j'ai eu la chance d'avoir depuis le début une équipe qui n'avait jamais envie d'être moyen. Ce sont des acteurs qui ont toujours pris à cœur la pièce. Jamais j'ai eu l'impression qu'on faisait une représentation de plus. J'ai toujours eu cette impression, que je demande toujours à mes comédiens, que chaque représentation, on faut la jouer comme si c'était la dernière. Et j'ai jamais été déçu avec cette équipe. Et en plus, cette équipe s'est démultipliée parce qu'on a doublé tous les rôles, puisqu'il y a des tournées en même temps qu'on a des tournées en même temps qu'on joue à Paris. Et je peux dire que les nouveaux comédiens ont vraiment emboîter le pas de façon remarquable. Du coup, on se pose jamais la question qui c'est qui joue quel soir. On sait très bien que chaque distribution sera à fond, et à chaque fois, on a les réactions, elles sont voilà, assez unanime. Après, il y a toujours des gens qui vont pas aimer un spectacle, mais jamais je me retrouve en me disant ah ben c'est un tel qui a joué, c'est moins bien. J'ai 10 comédiens formidables qui sont à fond et qui jouent avec un cœur incroyable. Donc c'est vrai que nous on a une en province comme à Paris une exigence d'être toujours à 100%. On ne fait jamais les choses au rabais. Ça fait pas partie du pédigré de cette troupe.
Très bien, Jean-Philippe, merci beaucoup pour cette interview. On rappelle donc que le spectacle est porté par deux distributions distinctes. L'une en tournée, vous retrouverez très facilement les dates sur les sites de billetterie. Et puis le spectacle est encore à Paris pour quelques semaines, au minimum jusqu'au 8 janvier. Et quelque chose me dit que...
Jusqu'au 31 mars, on est prolongé.
Voilà, c'est prolongé.
À 21h à partir du 22 janvier.
Vous avez la primeur de l'information, c'est prolongé.
C'était officieux,
encore.
C'est officiel depuis hier.
Depuis hier, donc merci beaucoup de nous révéler cette information, Jean-Philippe, et merci encore pour le temps que vous nous avez consacré.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.